Mais oui, je plaisante, messieurs. Et je sais bien que je ne plaisante pas d'une manière très heureuse. Mais on ne peut quand même pas tout prendre en plaisantant. C'est en grinçant des dents, peut-être, que je plaisante. Messieurs, il y a des questions qui me torturent. Résolvez-les pour moi. Vous, par exemple, vous voulez désapprendre aux hommes leurs vieilles habitudes et corriger leur volonté pour qu'elles correspondent aux exigences de la science et du bon sens. Mais comment savez-vous qu'il est non seulement possible, mais nécessaire de transformer les hommes de cette façon ? De quoi concluez-vous que la volonté humaine a une nécessité si impérieuse d'amendement ? Bref, comment savez-vous qu'un tel amendement aura pour les hommes un intérêt réel ? Et tant qu'à dire ce qu'on pense, pourquoi êtes-vous certainement assuré que le fait de ne pas se dresser contre les intérêts normaux et véritables, garantis par les conclusions de la science et de l'arithmétique, soit pour les hommes réellement toujours profitable et forme une loi pour toute l'humanité ? Car, pour l'instant, cela n'est que votre supposition. C'est une loi de la logique, je veux bien le supposer, mais pas du tout, peut-être, une loi de l'humanité. Vous pensez peut-être, messieurs, que je suis fou. Laissez-moi m'expliquer. Certes, l'homme est un animal essentiellement bâtisseur, condamné à tendre vers son but en toute conscience par la voie de l'ingénierie, c'est-à-dire à se frayer un chemin à tout jamais et sans interruption vers où que ce soit. Mais c'est pour cette raison, peut-être, qu'il a envie parfois de faire un détour, parce qu'il est condamné à se frayer ce chemin, et aussi, je suppose, parce que si bête que puisse être en général l'homme d'action spontanée, il lui arrive quand même de penser quelquefois que ce chemin, en fait, le mène presque toujours où que ce soit, que l'essentiel n'est pas de savoir où, mais le fait qu'il y aille, et que le gentil garçon, méprisant l'art de l'ingénierie, ne tombe pas dans la fatale oisiveté, laquelle, comme nous savons, est mère de tous les vices. Les hommes aiment bâtir et se tracer des chemins, d'accord. Mais pourquoi aiment-ils aussi passionnément la destruction et le chaos ? Ça, dites-le-moi un peu. J'ai envie de déclarer deux mots moi-même à ce sujet. N'est-ce pas, peut-être, que s'ils aiment tant la destruction et le chaos, et il est indéniable qu'il leur arrive d'aimer ça très fort, la chose est là, c'est qu'ils craignent eux-mêmes instinctivement d'atteindre leur but et d'achever le bâtiment qu'ils sont en train de construire. Qu'en savez-vous ? Peut-être leur bâtiment, ils l'aiment seulement de loin, mais pas du tout de près. Peut-être ce qu'ils aiment, c'est seulement le bâtir, mais pas vivre dedans, mais le laisser après aux animaux domestiques, du genre des fourmis, des moutons, etc. Les fourmis, elles semblent d'un avis contraire. Elles possèdent un bâtiment stupéfiant du même genre, indestructible, à tout jamais, la fourmilière. Mesdames les fourmis ont commencé avec la fourmilière. Elles finiront sans doute avec la fourmilière, ce qui fait honneur à leur constance et à leur caractère positif. Mais les hommes sont des créatures frivoles et pas jolies. Et comme le joueur d'échecs, peut-être, ils n'aiment que le processus qui mène au but, et non le but en tant que tel. Et qui sait, on n'en jurerait pas. Peut-être tout notre but en ce monde, ce but vers quoi l'humanité tend tellement, ne tient-il justement que dans le caractère continuel du processus de sa conquête, en d'autres mots, que dans la vie elle-même, et non à proprement parler dans le but, lequel, cela est évident, ne doit être rien d'autre qu'un 2 et 2 font 4, c'est-à-dire une formule, car 2 et 2 font 4, ce n'est déjà plus la vie, messieurs, mais le début de la mort. Du moins, les hommes ont-ils toujours eu peur, d'une façon ou d'une autre, de ce deux et deux, comme j'en ai peur moi-même à l'instant où j'écris. Supposons que les hommes ne fassent que rechercher ces deux et deux, qu'ils traversent les océans, qu'ils sacrifient leur vie dans cette recherche, mais les trouver pour de vrai, je vous le jure, ils en ont un peu peur. Ils sentent bien que, dès qu'ils les auront trouvés, ils n'auront plus rien à chercher. Les ouvriers, à la fin de leur travail, reçoivent au moins de l'argent. Ils peuvent faire un tour au bistrot, se retrouver au poste, et voilà une semaine bien remplie. Mais les hommes, où peuvent-ils aller ? Au moins, chaque fois, remarque-t-on chez eux, comme un malaise quand ils atteignent ce genre de but. Ils aiment l'action d'atteindre, mais le fait même, ils ne l'aiment pas du tout, ce qui bien sûr est terriblement drôle. Bref, les hommes sont conçus d'une façon comique. Il y a sans doute là comme une espèce de calembour. Mais 2 et 2 font 4 reste quand même résolument insupportable. 2 et 2 font 4, mais c'est à mon avis, si je puis me permettre, un sarcasme pur et simple. 2 et 2 se pavanent comme un coq, se dressent au milieu de votre route, les mains sur les hanches, et restent là à vous cracher dessus. Je vous accorde que 2 et 2 est une chose excellente. Mais tant qu'à tout louer, c'est 2 et 2 font 5 qui peut être un engin combien plus adorable. D'où vient que vous êtes si fermement, si triomphalement persuadé que seul le positif et le normal, bref, en un mot, le bien-être, sont dans les intérêts des hommes? Votre raison ne se trompe-t-elle pas dans ses conclusions? Et si les hommes n'aimaient pas seulement le bien-être? Et s'ils aimaient la souffrance exactement autant? Si la souffrance les intéressait tout autant que le bien-être? Les hommes l'aiment quelquefois, la souffrance, d'une façon terrible, passionnée. Ça aussi, c'est un fait. Ce n'est même plus la peine de se rapporter à l'histoire du monde. Posez-vous la question vous-même, si seulement vous êtes un homme et si vous avez un tant soit peu vécu. Quant à mon opinion personnelle, aimer seulement le bien-être, ça me paraît presque indécent. Que ce soit bien ou mal, mais casser quelque chose, c'est parfois très plaisant. Car ce n'est pas la souffrance, au fond, que je défends ici, et pas non plus le bien-être. Ce que je défends, c'est mon caprice, le fait qu'il me soit garanti quand j'en ressentirai le besoin. Par exemple, la souffrance est inadmissible dans les vaudevilles, je le sais. Dans le palais de cristal, elle est de plus impensable. La souffrance, c'est un doute, c'est une négation. Or, qu'est-ce qu'un palais de cristal où le doute est possible? Mais je reste persuadé que l'homme ne refusera jamais la souffrance véritable, c'est-à-dire la destruction et le chaos. Car la souffrance est la seule cause de la conscience. Même si j'ai commencé par affirmer que la conscience était pour les hommes leur plus grand malheur, je sais qu'ils l'aiment et ne l'échangeraient contre aucune satisfaction. La conscience est infiniment supérieure à 2 et 2, parce qu'après 2 et 2, cela s'entend, il ne reste non seulement plus rien à faire, mais plus rien à connaître. Tout ce qu'il est possible de faire alors, c'est de se boucher les 5 sens et de se plonger dans la contemplation. Bien sûr, la conscience vous amène au même résultat, c'est-à-dire que, là non plus, il n'y a plus rien à faire, mais on peut toujours se flageller de temps à autre, et ça vous ravigote un peu quand même. C'est vieux jeu, d'accord, mais c'est mieux que rien. Vous avez foi en un palais de cristal à jamais indestructible, c'est-à-dire quelque chose à quoi on ne pourra pas tirer la langue en douce, ni dire mentalement « merde ». Et moi, peut-être, c'est pour cela que j'en ai peur, de cette construction, parce qu'elle est en cristal, et à jamais indestructible, et qu'on ne peut même pas, en douce, lui tirer la langue. Parce que, vous comprenez, si vous installiez un poulailler à la place du palais, au cas où il se mettrait à pleuvoir, je me glisserais même dans le poulailler pour ne pas être trempé, mais ma reconnaissance pour m'avoir protégé des gouttes ne me le fera pas prendre pour un palais. Vous riez, vous dites qu'un poulailler vaut bien le château de Versailles en cas de pluie. Je vous réponds, oui, si le seul but de la vie est de rester au sec. Que faire si je me suis mis en tête qu'on ne vit pas que pour cela et que, tant qu'à faire de vivre, autant vivre à Versailles? C'est cela mon désir, c'est mon envie. Vous ne me l'effacerez de la cervelle qu'au moment où vous saurez me changer mes désirs. Eh bien, changez-les-moi. Tentez-moi avec autre chose. Donnez-moi un autre idéal. En attendant, je ne prendrai pas un poulailler pour un palais. Supposons même que le palais de cristal ne soit que du vent, que les lois de la nature l'interdisent et que je ne l'ai inventé que par suite de ma propre bêtise, à cause de certaines coutumes ancestrales irrationnelles de notre génération. Qu'est-ce que j'en ai à faire que la nature l'interdise? N'est-ce pas la même chose s'il existe dans mes désirs, ou pour mieux dire, s'il existe tant que mes désirs existent ? Je gage que vous riez encore. Riez, je vous en prie. J'accepte toutes les moqueries, mais je ne dirai pas que je suis rassasié si j'ai le ventre creux. Je sais quand même que je ne saurais pas me satisfaire d'un compromis, d'un zéro périodique constant, pour la seule raison qu'il existe selon les lois de la nature et qu'il existe en fait. Je ne prendrai pas pour le sommet de mes désirs un immeuble de rapport avec des appartements pour les pauvres, des baux de 1000 ans, et on n'est jamais trop prudent, des Wagenheim sur une affichette. Anéantissez-moi mes désirs, effacez-moi mes idéaux, montrez-moi quelque chose de mieux et je vous suivrai. Je suppose que vous me répondez que je fais beaucoup d'histoires pour rien, auquel cas je vous réponds la même chose. Nous parlons sérieusement. Si vous ne voulez pas me faire l'honneur de m'écouter, je ne vous retiens pas, j'ai mon sous-sol. Mais tant que je suis vivant et que je désire, que ma main se dessèche si j'apporte une seule brique à un bâtiment de ce genre. Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure quand je refusais le palais de cristal pour la seule raison qu'il était impossible de lui tirer la langue. Si j'ai dit ça, ce n'est pas du tout que j'aime tirer la langue. La seule chose peut-être qui me mettait en rage, c'est que dans toutes vos constructions jusqu'à présent, on n'en trouve pas des palais où l'on puisse même ne pas tirer la langue. Non, je me la laisserais couper, cette langue, avec reconnaissance, s'il pouvait arriver que je n'ai moi-même plus jamais envie de la tirer. Qu'est-ce que j'en ai à faire si ce palais, on ne peut pas le construire et qu'il faille bien nous contenter d'appartements ? Pourquoi est-ce que je suis bâti de tels désirs ? N'ai-je donc été bâti que pour parvenir à cette conclusion que toute ma construction n'est que du vent ? Est-ce que vraiment c'est là le but ? Je n'arrive pas à y croire. Encore que, vous savez, je suis convaincu qu'il faut lui mettre le mort aux dents à notre gars du sous-sol. Il est capable de se taire dans son sous-sol pendant 40 années, bien sûr, mais qu'il arrive à ressurgir dans la lumière, il parle, il parle, il parle !